C'était quand votre dernier déjà vu? Genre, est-ce que vous vous en souvenez de votre dernier déjà vu ou c'est hyper éphémère et vous vous en souvenez plus après?
C'était il y a pas si longtemps que ça. Moi, c'était, c'était avec toi dans un café.
Ah oui, tu m'avais dit.
Avec une serveuse. C'est dingue. Voilà, non, mais ça m'a troublé et j'y pense encore.
Okay.
Moi j'avoue c'est un peu traumatique généralement quand j'expérimente le déjà vu, donc je pense que je l'efface un peu. Enfin vraiment je sais pas comment vous le ressentez, mais moi à chaque fois
c'est hyper aléatoire.
Ouais, c'est aléatoire, mais c'est tellement malaisant. Ça met vraiment mal à l'aise.
Oui. Surtout que personne, la personne en face de toi va pas comprendre, genre être en mode ok.
Ouais,
bah, j'ai pas la ref, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Ouais, et tu dis à la personne elle est en mode d'accord. Et moi ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un en face de moi qui me dit mais j'ai jamais expérimenté de déjà vu.
Ça c'est une folie.
Ah ouais, d'accord. Ça je trouve ça fou.
C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement. Le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai eu conscience d'avoir dérangé. Bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime guère travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Le vrai amour a toujours la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Pio.
Bienvenue dans la nouvelle saison de Radio Pium. Et aujourd'hui, on accueille de nouvelles personnes. Bah, présentez-vous, hein. C'est parti.
Tu veux commencer?
Vas-y.
Ok, bah moi, je m'appelle Lancelot.
Et bah, bienvenue Lancelot. Hein.
Merci beaucoup.
Et moi, c'est Manon, du coup.
C'est génial, bienvenue Manon aussi. Et du coup, on a aussi Lou, qui était là l'année dernière,
bonjour.
Évidemment. Anna.
Rebonjour.
Et Marianne, moi-même. Mais vous n'avez pas quand même l'impression qu'on a déjà expérimenté ce moment? Une petite impression déjà vue,
malgré
quoi.
Les deux nouveaux, en vrai.
Ouais. Retourner dans le studio.
Revenir toujours dans le studio et tout. Même horaire, même lieu.
Même problème.
Même problème.
Même
problème.
Dépression. D'enregistrement, de réservation de créneau. Ouais, non, carrément.
Un petit air de déjà vu.
Mais alors justement, les scientifiques s'accordent tous un peu à dire que ça reste mystérieux. Ça, c'est vraiment le propre du déjà vu. Après, chacun reformule un peu sa propre théorie, sa propre hypothèse. Mais on en a trois qui reviennent très souvent.
Voilà. Okay.
Donc parmi celles-ci, on a celle de la familiarité. En fait, c'est notre cerveau qui déclenche une fausse alerte de familiarité. Mmh. Il y a certaines zones du cerveau qui nous permettent de ressentir le « Ah, je connais déjà ce sentiment ». Donc il y a certains neurones qui sont chargés de signaler le familier et donc qui s'emballent un peu sans raison. Ce qui nous fait vivre, plutôt avoir l'impression de revivre quelque chose. La deuxième hypothèse, c'est un court-circuit de la mémoire. En fait, c'est un peu comme si il y avait un court-circuit qui faisait entrer la nouvelle expérience immédiatement dans la mémoire à long terme. Mmh. Et en fait, elle passe pas par la case mémoire à court terme. Donc on a l'impression de l'avoir déjà vécu parce qu'elle se trouve dans la mémoire à long terme, alors qu'en fait, les vêtements, on l'a jamais vécu. Et il est directement classé... comme s'il avait déjà eu lieu.
Donc, okay.
En fait, okay. Juste notre conscience est persuadée de l'avoir déjà vécu parce qu'elle est placée dans la mémoire à long terme.
C'est super.
Littéralement un bug.
Donc, c'est le cortex rénal, voilà, j'ai oublié de dire ça, qui envoie le signal de familiarité. Dans tous les cas, c'est des bugs. Voilà. Et la troisième hypothèse, que je trouve un peu plus complexe, c'est la désynchronisation neuronale. Wow. Alors, le mot fait peur, mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est notre cerveau qui reçoit une image à deux moments différents, avec même une milliseconde de différence. Ça,
il y avait deux endroits où ça s'imprimait. Ouais.
Exactement. L'événement, il arrive à deux endroits différents du cerveau. Et donc, le cerveau se dit, bah, j'ai déjà vécu. Mais juste parce qu'en fait, il l'a vécu une seconde avant, à un autre endroit.
Il est présent, presque.
Exactement.
Okay.
Du coup, il y a vraiment cette notion du temps à ce moment-là. Donc, je voulais aussi finir sur le fait que ça reste quand même mystérieux et qu'il n'y a aucun modèle scientifique qui reste valable.
Bah, ça me fait bizarre. Et en vrai, comme je sais, en fait, je sais un peu pourquoi. Enfin, il me semble que c'est un mécanisme du cerveau, etc. Enfin, quelque chose comme ça. Donc après, je me pose pas de questions, enfin, je m'inquiète pas, mais c'est vrai que ça fait bizarre sur le coup. Ouais.
La philosophie, justement, peut nous aider à
exactement,
comprendre.
Complètement.
C'est peut-être pour ça qu'on a envie de comprendre pourquoi ça passe tant par le corps et que c'est vraiment pas seulement un effet du cerveau. Enfin, on voit que, on l'a dit tout à l'heure, qu'on a vraiment des effets physiques, émotionnels hyper profonds. Et c'est trop intéressant de réfléchir à ça.
Ouais, exactement. Je pense que du coup, la philosophie a vraiment un rôle à jouer dans toutes ces hypothèses.
Bah, et puis d'ailleurs, c'est quand même un philosophe qui a théorisé le concept de déjà-vu, quoi. Donc, ça en dit beaucoup, je pense, le fait que ce soit du coup Émile Boirac. En 1876,
c'est ça.
Qui, dans son ouvrage L'avenir des sciences physiques, a théorisé le déjà-vu. Et c'est vraiment, enfin, c'est le premier à s'être intéressé à ce phénomène-là et à avoir mis des mots dessus, à tel point qu'aujourd'hui, les autres langues nous reprennent le terme de déjà-vu. Ce qui est quand même assez fou.
Déjà-vous.
Déjà-vous, comme diraient les Anglais. Et est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit point, du coup, un peu étymologie ? J'avais noté aussi que c'est lié, en fait... Enfin, en fait, donc, avec toutes les définitions scientifiques que tu as données tout à l'heure, on peut relier, en fait, le déjà-vu au terme de paramnésie. Si on s'intéresse à l'étymologie de paramnésie, ça peut nous en dire un peu plus aussi sur ce que c'est que le déjà-vu, puisque para, en grec, ça veut dire à côté, et mnésie, ça veut dire mémoire. Donc, il y a vraiment ce truc de décalage mémoriel, quoi. Et donc, c'est vraiment à distinguer de l'amnésie, parce que c'est pas un oubli, c'est vraiment une forme de décalage mémoriel, quoi. Et donc, ça crée généralement, comme on l'a dit, une sensation d'irréalité, d'étrangeté, et c'est sûrement ça qui a mené Émile Boirac à se pencher sur le sujet.
En plus, la période, genre, c'était une période où on se posait beaucoup de questions sur le rêve, sur la mémoire, sur tout ça. Genre, tous les auteurs sont posés énormément de questions, d'abord d'un point de vue littéraire, après, et peut-être en même temps d'un point de vue philosophique, vu que c'est hyper lié la littérature et la philosophie, et du coup, après, d'un point de vue scientifique au XXe siècle, où ça a enchaîné les théories, et encore maintenant, on sait toujours pas ce que c'est, donc c'est trop intéressant de... poser les questions.
Et d'ailleurs, c'est quoi un peu les questions qui vous viennent en tête là quand on se penche sur le déjà-vu, enfin, ouais, les problématiques, on va dire, que ça soulève.
Est-ce que c'est un phénomène réel?
Ouais.
Ou est-ce que c'est juste un trouble?
Ouais. Est-ce que c'est pathologique? Est-ce que ça concerne tout le monde? Ou
est-ce que c'est subjectif, objectif?
Et, ouais, justement, je pense que c'est aussi. Je rebondis un peu sur le truc des scientifiques, mais c'est difficile à étudier aussi parce que ça nous échappe au même moment où ça survient, donc c'est hyper difficile à cerner.
Et je sais plus si on l'a mentionné, mais il me semble que c'est que 70% des gens qui expérimentent le déjà-vu. Donc c'est vrai que la question du pathologique, elle est vraiment hyper pertinente, et se demander mais pourquoi certaines personnes ne le vivent pas, pourquoi...
Est-ce qu'il faut que ce soit des conditions genre externes qui mettent dans une situation où tu peux l'avoir, ou est-ce que c'est vraiment un truc dans le cerveau qui fait que certaines personnes peuvent l'avoir?
Est-ce que tout le monde a le même type de déjà-vu? Est-ce que chacun a sa propre façon de...
Est-ce que c'est une pathologie, la pathologie du déjà-vu?
Et est-ce que même c'est possible, en fait, de savoir comment l'autre perçoit le déjà-vu? Je pense que c'est le côté vraiment irréductible de l'expérience subjective.
C'est que ça nous est familier, on l'a tous vécu, on sait que tout le monde le vit, et en même temps, on peut pas le partager, on est seul avec soi-même dans le déjà-vu, quoi.
Et en fait, je pense que la tension, elle se situe un peu là aussi, en fait, entre la manière dont ça peut être un objet de science, un objet d'études scientifiques, et une expérience purement subjective, radicalement subjective, et du coup, qui nous ramène à notre condition... d'humain. Seul.
Ça trouble la temporalité aussi, c'est-à-dire que t'as vraiment une superposition du présent, du passé, et en même temps t'as l'impression de te projeter dans l'avenir, parce que du coup t'es vraiment en train d'essayer de capter ce qui va arriver, et de toujours, enfin, il y a un aller-retour perpétuel entre, mais qui est vraiment instantané entre ces trois niveaux de temporalité.
Puis même, du coup, ça veut dire que si le déjà-vu, c'est genre pas un souvenir trouble, mais un mélange de souvenirs et de tout plein de choses, ça se trouve là on crée un déjà-vu. Genre là, on crée un souvenir trouble de déjà-vu de plus tard.
Complètement.
Genre, c'est trop bizarre.
Mais du coup, je trouve que ça met un peu à mal notre conscience dans le temps.
Ouais.
Parce qu'au final, est-ce que le temps, si c'est censé être linéaire, mais en même temps, on revit quelque chose du passé, la définition du temps, elle est plus très claire. Elle devient, ça brouille un peu toute cette idée-là qu'on avait depuis toujours, en fait.
De notre rapport au temps.
Ça remet en question le rapport qu'on a avec le temps.
Et le monde.
Et en fait, moi, ça m'amène aussi à un autre questionnement autour de la manière dont on utilise ce terme de déjà-vu, parce que on en a parlé là comme d'une expérience réelle, un phénomène scientifique, etc. Mais en fait, c'est aussi une expression courante qu'on utilise beaucoup au sens figuré. Enfin, je sais pas si ça vous arrive, mais enfin, moi, ça m'arrive très souvent de dire « Ouh là là, j'ai comme une impression de déjà-vu ». Et en même temps, je pense que justement, même les gens qui n'ont jamais vécu peuvent utiliser cette expression. Parce qu'il y a un truc de...
C'est ça, c'est collectif. C'est singulier, mais en même temps, c'est général. Et pour revenir sur ce que tu disais, Anna, d'une temporalité qui se fait sur trois étages, je sais que Edmund Husserl, dans sa phénoménologie, il divise ça de manière trois façons différentes, avec la rétention, le présent et la protension. Du coup, c'était vraiment ça, de manière évidente, quoi.
D'abord, se pencher sur ce que c'est que l'expérience du déjà-vu, comment on la vit concrètement, quoi, à l'échelle subjective, et comment les philosophes ont pu le penser. Du coup, je crois que Manon, tu avais un truc
oui, donc petite info, c'est que Saint-Augustin appelle le déjà-vu « fausse mémoire ». Donc je trouve que ça en dit long sur en fait, l'expérience du déjà-vu.
Carrément, et je trouve ça intéressant. Du coup, ça nous pousse peut-être aussi à faire un peu des distinctions conceptuelles, déjà dans un premier temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Histoire de quand même distinguer le déjà-vu et de le reconnaître comme une expérience vraiment à part entière, qui est différente du flashback, par exemple.
Ouais.
Donc vraiment, du retour d'un souvenir, enfin flashback ou réminiscence en français, retour d'un souvenir dans le présent. Et d'ailleurs, je crois que vous aviez des choses à dire aussi sur la réminiscence.
Bah oui, parce qu'en vrai, c'est deux phénomènes qui sont hyper... semblables, dans le sens où ça joue sur la mémoire et sur le souvenir. Donc du coup, à partir de là, on pourrait vraiment les confondre, la réminiscence.
Oui, c'est ça. Alors après, on a Platon, évidemment, qui nous parle de la réminiscence. La réminiscence qui n'est pas du tout le déjà-vu. Il faut bien distinguer les deux. Pour Platon, la réminiscence, c'est en fait un souvenir de l'âme qui nous permet de connaître, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on sait, ce n'est rien d'autre qu'un souvenir de quelque chose qu'on savait déjà. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de revoir, de déjà-vu, en fait, mais qui est une réminiscence, puisque c'est l'âme qui se ressouvient. Et donc, il dit justement que connaître, c'est se ressouvenir, dans ce sens-là.
Oui, parce que c'est littéralement comme ça, en fait, qu'on construit la connaissance. C'est en enregistrant des choses dans notre mémoire et en faisant en sorte de créer une sorte de cohérence entre toutes ces perceptions qu'on expérimente progressivement au cours du temps et toutes les connaissances qui viennent avec, quoi. Mais du coup... qu'est-ce qui distingue la réminiscence du déjà-vu ? Donc là, juste pour donner peut-être un exemple un peu plus concret déjà de la réminiscence, c'est la Madeleine de Proust.
Oui, la fameuse Madeleine de Proust. Après, j'ai pris un autre exemple parce que j'aime beaucoup la Madeleine de Proust parce que c'est celle qui nous parle le plus.
Tu veux arrêter d'en parler.
Que tu manges et d'un coup, tu te rappelles un souvenir et tout. Et ça te ramène à un souvenir qui est factuellement réel, qui s'est passé et tu le revis pas. C'est toi qui es genre confronté à la chose par l'odorat, par...
C'est ça qui est intéressant dans la Madeleine, c'est qu'il y a vraiment un élément déclencheur qui n'y a pas forcément dans le déjà-vu.
Exactement. Et en fait, j'avais marqué ça d'ailleurs sur le déjà-vu les caractéristiques, c'était une durée brève et passagère, souvent involontaire et sans cause apparente, pas de contenu réel. Genre on est vraiment dans un moment hyper flou et que c'est un phénomène psychologique ou neurologique. Genre ça peut être un peu... Enfin, c'est scientifiquement bizarre et tout. Alors qu'en soi, la réminiscence, on sait que globalement, c'est provoqué par un élément déclencheur. Olfactif,
tu sais de quoi tu te souviens exactement. Enfin, c'est Bergson aussi qui fait la différence entre... déjà vu et fausse reconnaissance. Ouais. Et il me semble qu'il dit que le déjà vu, en fait, tu sais que tu te souviens de quelque chose, mais tu sais pas de quoi. Alors
exactement.
Que la fausse reconnaissance, mais comme par exemple la réminiscence, etc., tu sais exactement à quel passé, à quel moment, à quel lieu
J'avais marqué une phrase, genre, je trouve, qui dit tout, c'est vraiment le déjà vu trompe la mémoire, la réminiscence révèle la mémoire. Ouais. Et genre, je trouve que c'est vraiment.
C'est exactement ça.
C'est exactement ça.
Parfois, j'ai des déjà vus de choses qui. C'est pas possible que ce soit passé parce que c'est un nouvel endroit. Par exemple, je me dis peut-être dans une ancienne vie. Non, je me sens bien, c'est juste spécial.
Et bon, j'ai un passage de Proust.
Allez, c'est notre moment.
C'est le moment lecture.
C'est le moment lecture. En fait, c'est que la Madeleine, c'est Mimi, il mange un gâteau. Mais là, il parle d'amour.
Et... intense.
Et en fait, c'est le moment où c'est dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, donc c'est dans le deuxième tome, et c'est le moment où il parle des rencontres qu'il a souvent avec ces jeunes filles et comment il vit ces rencontres. Et du coup, comment c'est un mélange de souvenirs et de réalité, mais qu'en même temps, il sait plus si ce qu'il voit c'est réel, si c'est ce qu'il projette, si c'est du souvenir. Et du coup, il dit nous ne nous en souvenions déjà plus. Tant ce qu'on appelle se rappeler un être, c'est en réalité l'oublier. Mais aussi longtemps que nous savons encore voir au moment où le trait oublié nous apparaît, nous le reconnaissons, nous sommes obligés de rectifier la ligne déviée. Et ainsi, la perpétuelle et féconde surprise qui rendait si salutaire et assouplissant pour moi ces rendez-vous quotidiens avec les belles jeunes filles du bord de la mer était faite tout autant que de découvertes, de réminiscences.
Waouh!
grandeur.
Merci pour c'est ça. C'est Soproust, quoi. C'est presque qui dure 5 heures.
Ah, mais il avait pas fini.
C'est la
il
fin du podcast.
Je trouvais qu'il définissait bien autre chose qu'un truc qui est la saveur de la madeleine, tu vois. Ou genre, c'est, il était vraiment tout seul en train de manger sa petite madeleine. Il était en mode, oh, ça me rappelle un truc. Alors que là, c'est vraiment un moment qui vit à plusieurs reprises dans le livre, où il rencontre ces jeunes filles, et même en fonction de lui, comment il grandit, il va s'en souvenir de manière différente. Tu vois ce que je veux dire? Donc il va s'adapter, enfin il va s'approprier son souvenir, qui est à la fois un souvenir flou, mais à la fois un souvenir vrai. Mais enfin, c'est vraiment tellement pas comme le déjà vu, où là il peut le conscientiser, tu vois.
Et il peut l'anticiper aussi.
Et il peut l'anticiper, et même il arrive à en parler, parce qu'il arrive à mettre des mots sur ce qu'il ressent, alors que le déjà vu, on n'arrive pas à mettre vraiment des mots sur ce qu'on ressent, tu vois.
Mais du coup, ouais, moi c'est ce qui m'amène un peu à l'idée, selon moi, en fait, que le déjà vu, c'est quand même une expérience qui de base est assez négative, dans le sens où c'est une intrusion. Enfin, ça peut être vécu comme une sorte d'intrusion indésirable, en fait.
Ouais, c'est vrai.
C'est un peu comme si notre propre cerveau nous trahissait. Enfin, je sais pas, je trouve que ça serait intéressant de se pencher sur cette dimension plus négative.
Mais c'est vrai, parce que t'as une perte de rapport au temps. Du coup, t'as une perte de perception de toi-même, en fait.
C'est ça.
Et une perte de rapport au monde aussi, parce que enfin, y a une superposition du monde, de l'espace et du temps.
Ouais. Je dirais qu'en fait, c'est pas forcément une perte de conception, enfin de perception de toi-même. Justement, c'est pas une étrangeté à soi, parce qu'en fait, tu sais que c'est toi qui es en train d'expérimenter ce qui se passe. C'est vraiment une forme d'étrangeté au réel, quoi.
Ouais, de ce qui t'entoure dans la globalité. Ouais. Par définition, tu peux t'y perdre.
Ouais,
j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'étrangeté à soi, parce que t'as l'impression de te souvenir de quelque chose, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un souvenir qui avait été greffé dans ta mémoire, et que t'avais, parce que parfois tu sais c'est impossible, que moi j'ai déjà vécu des déjà-vus avec des gens que j'avais jamais vus, des endroits où j'avais jamais été, et je me dis mais qui a vécu ça avant moi, enfin il y a un truc hyper bizarre,
y a un truc un peu mystique.
Je voulais aborder cette idée parce que le déjà-vu, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vachement, qui peut être appréhendé de façon spirituelle.
Ouais, vraiment.
Et c'est, bah, pour revenir sur saint Augustin, il parle du déjà-vu comme une illusion démoniaque. Donc, enfin, qui accrédite l'hypothèse de l'éternel retour. Enfin, ce qui est intéressant, c'est surtout l'aspect démoniaque et le fait que oui, il y a un truc vachement mystique, enfin, un peu spirituel, quoi, dans le déjà-vu.
En fait, justement, moi, je trouvais aussi que dans la réminiscence, on se sent un peu chez soi dans ce qu'on vient de revivre. Et il y a une forme de familiarité. Alors que dans le déjà-vu, c'est un peu le passé qui revient à soi, mais sans contenu. En fait, c'est un souvenir qui est presque vide. C'est un souvenir qui nous dit rien.
La sensation du souvenir.
Oui, c'est souvent. Ouais. C'est juste une sensation,
ça,
C'est
intéressant. C'est ça. Bah, c'est un peu un regard imaginaire. Et du coup, c'est vrai que pour faire une petite citation, comme notre très cher Lou, Sartre, il définit même dans l'imaginaire, parce qu'il va nous dire que le regard qui se réfléchit sur lui-même peut faire de l'être vécu un objet d'imagination, d'où la sensation que l'on se voit vivre.
C'est vraiment ça, c'est vraiment se voir vivre. Ouais. C'est vraiment cette impression de.
Un dédoublement phénoménologique.
Mais complètement.
Ouais. C'est ça, c'est pour double ça que... le temps en fait.
Ouais, et c'est sans contenu dans le sens où en fait ça peut être juste je suis en train de boire mon café et j'ai l'impression d'avoir déjà pris cette tasse exactement à ce moment-là et d'avoir déjà porté mes lèvres à cette tasse, d'accord, ok, mais.
Mais surtout ça s'inscrit dans le corps, pardon, je t'en prie.
Non, mais il n'y a pas de
soucis. On est beaucoup autour de cette table, c'est compliqué.
Je sais même plus ce que j'allais dire. J'allais dire que oui, c'était ça qui était bizarre aussi avec le déjà-vu, c'est qu'il y a à la fois le truc où, comme tu dis, tu prends ta tasse de café et tu te souviens du moment lointain où tu l'avais peut-être prise au même endroit, et en même temps le truc que tu disais hyper spirituel, où je sais pas si on peut le rapprocher à ça, mais je sais pas si vous avez vu l'histoire de l'enfant qui va voir sa mère et qui dit oh, mais maman, dans cet endroit en Bretagne, il y a une maison et dedans il y avait. Et genre, c'était ma femme et tout. Et
la vie antérieure.
La vie antérieure.
Oui, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est. Bah, j'ai déjà vécu et genre, on donne une deuxième chance pour refaire, je sais pas.
Est-ce que, genre, quand on a des déjà-vus, c'est notre vie antérieure et les
comme
enfants.
Comme si c'était une réincarnation.
Mais c'est ça.
Et comme si les enfants avaient des déjà-vus,
de
genre.
Mais c'est, ou des choses qui t'ont marqué, bah, à Saint-Augustin, non, mais c'est vrai, ou des choses qui t'ont marqué et qui appartiennent à une vie passée.
Ouais. À quelqu'un d'autre, finalement.
Non, mais c'est. Moi, c'est un truc que je me. Une question que je me pose tout le temps, vraiment, ce truc de. Cette dimension mystique, mais c'est vraiment. Pareil, genre, une question auquel on n'aura jamais de réponse, quoi. Tout autant, en fait, que. Enfin, c'est pareil qu'au niveau scientifique, en fait, où il y a des choses qui sont insolubles. Enfin, limite, on peut se dire que le mysticisme peut nous apporter une forme de réponse un peu réconfortante. Je sais pas si c'est réconfortant, en fait,
comme
de se dire qu'on a déjà
choses,
vécu.
Ouais, comme une raison suffisante, bah, on met le mystique, genre.
Oui, c'est vrai. Mais on retombe un peu sur Platon, du coup, sur cette idée-là, que c'est un souvenir de l'âme. Il y a un peu cette idée aussi. Il y a un côté spirituel, je trouve. Dans le souvenir de l'âme et d'une vie quoi, dont on ne se souvient plus, mais pourtant il y a une partie de nous qui s'en souvient encore sans qu'on en soit vraiment conscient.
Ou sinon, on est dans une simulation. On va tout
mourir. Ah, comme notre très 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 cher ami Elon Musk.
Mais d'ailleurs, ce truc quand même... du coup, Bergson, dans Matière et Mémoire, lui, il dit vraiment que c'est, et ça on l'a déjà un peu dit, mais que c'est un court-circuit temporel. Ouais. Et parce que lui, du coup, il distingue déjà deux types de temps, genre le temps des horloges et le temps de la conscience, et ça, je trouve ça super intéressant.
C'est beau, c'est vrai que c'est carrément très beau.
Mais du coup, ça, je trouve que ça rejoint en fait la citation de Sartre qui dit que c'est se regarder vivre. Il y a un peu un truc de... Bah, il y a une dissonance entre le temps réel, enfin le temps des horloges du coup qui est un temps fixe, quantifiable, etc., scientifique, le temps de la conscience en fait où c'est vraiment juste quelque chose, c'est la durée en fait pour Bergson, c'est vraiment quelque chose qui est purement expérience en fait.
C'est et
qui
est un flux quoi. Ouais.
C'est ça, et qui est propre à chacun, c'est un flux de conscience et en fait le déjà-vu c'est vraiment une sorte, bah, comme on l'a dit, donc de retour du passé dans le présent, en même temps de sorte de... Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est du coup une forme de discontinuité dans le continu de la conscience.
Profondément, ouais. Parce que le temps des horloges, c'est un peu peut-être le temps inventé aussi quelque part.
Ouais, c'est ça.
Alors que c'est ce que disait Anna, c'est quand on a partagé au tout début là, du podcast nos ressentis sur le déjà-vu, moi j'ai l'impression que c'est aussi une manière de qu'on apprécie profondément ce moment ou non. En fait, on se rattache à ce qu'est peut-être vraiment le temps.
Ouais.
Est-ce que vraiment, du coup, on arrivera à le palper à ce moment-là, ou c'est une illusion?
Donc c'est l'expérience aussi de la répétition, un peu le déjà-vu. Ouais. C'est l'expérience de j'ai déjà vécu, mais parce que aussi ça ressemble tellement à plein de choses qu'on a déjà vécues, même si factuellement on l'a jamais vécu. Le fait de boire un café, le fait de parler à quelqu'un, enfin, ouais. C'est juste des expériences purement humaines. Si on le conçoit comme une forme d'intrusion et d'expérience négative, ça montre peut-être aussi que notre cerveau et que nous, on n'aime pas trop la répétition, en fait, qu'on a du mal à accepter la répétition et qu'il y a une forme de frustration à l'égard de cette expérience de la répétition.
Et je trouve que justement, le côté étrange du déjà-vu, c'est surtout que j'avais un peu l'impression que c'était tellement familier, presque trop familier, que ça nous paraissait étrange.
Ouais, ouais. Mais tu sais que ça, c'est une petite anecdote drôle. Je pense que mon ami se reconnaîtra. J'ai un ami qui, quand il a ce sentiment de déjà-vu, il me dit que, en fait, t'es mort dans un certain temps.
C'est horrible.
C'est vraiment horrible. Après, lui, il est pas, il a sa manière de voir les choses, mais en fait, ça corrèle totalement votre perception de dire que bah c'est un moment où on ne se sent pas bien, peut-être quelque chose où on est stressé, où ça nous inspire pas.
Ouais. On est en décalage en fait. On est un peu à côté. On est un peu en retard de
spectateur de sa propre vie un peu.
Ouais, c'est vraiment ça.
Et je pense qu'il y a le truc du coup, le truc de la mort, ça me fait trop penser à Sartre. Encore une fois, je sais plus exactement. Où et quand, je sais que Sartre, il a déjà dit que être dans l'instant présent, genre totalement dans l'instant présent, ça reviendrait à mourir.
Bah l'imaginaire, peut-être. Tu l'as lu?
C'est peut-être dans l'imaginaire, ouais. Mais il dit ça en fait parce que toute la pensée sartrienne, elle tourne autour du fait qu'il pense l'homme comme un projet et que selon lui, on est toujours soit dans le passé, soit dans le futur et jamais vraiment fondamentalement dans l'instant présent. Et du coup, en fait, l'impression déjà vue, c'est l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose, mais est-ce que c'est pas aussi l'impression d'être... On est que dans le présent, en fait. On a l'impression d'avoir déjà vu ce moment présent. Donc ça se rapproche presque de l'expérience de la mort aussi. C'est super intéressant.
Non, c'est vraiment très drôle. Bah, surtout qu'on se demande si alors le présent existe réellement.
Ouais, c'est ça. Il y a une remise en question. Ouais.
C'est dans le présent, mais on est aussi, c'est aussi la preuve qu'on est vivant.
Ouais.
En fait, le déjà-vu.
Je trouve c'est
que c'est aussi la preuve que notre passé nous constitue et en même temps, on est complètement dans le présent. Donc, comme tu disais, une genre de mort, un truc comme ça. Mais en même temps, c'est aussi la preuve de.
Sentir le temps couler sur nous sans émotion comme racine pour développer ce sentiment, je trouve que c'est sentir vivre aussi.
C'est ça.
Je trouve ça marrant de dire ça quand t'as dit au début que c'était peut-être un arrêt cardiaque et dire que c'est le moment où on se sent le plus vivant.
C'est vrai que c'est très drôle.
Celui où on se rapproche le plus de la mort, ça se trouve c'est vraiment une
Est-ce
sorte
que la
d'expérience
mort, c'est le
de
mort
et...
sans le plus vivant.
Vrai question. Je pense.
Mais d'ailleurs, dans les expériences scientifiques, ils déchargent électrique dans une partie du cerveau et ça a provoqué un déjà-vu. En fait.
Oh, ça c'est dingue.
Donc en fait, est-ce qu'on peut le provoquer aussi
Est-ce qu'on peut le provoquer?
Est-ce qu'on peut
provoquer
un déjà-vu?
Et ça peut nous amener du coup à d'autres questions. Bah, le fait que, pourquoi ça nous frustre, pourquoi ça nous énerve, c'est la répétition, c'est aussi du coup peut-être la perte de contrôle. D'où le rapprochement avec la mort aussi, parce que
c'est
en
ça.
Fait.
Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à ça aussi. Quoi.
Et du coup, c'est super intéressant si on peut le provoquer. Est-ce qu'on peut reprendre une forme de contrôle sur le déjà-vu, quoi?
Du coup, est-ce que c'est un déjà-vu si on le provoque?
Ouais. J'ai l'impression que le déjà-vu, c'est vraiment un peu la cristallisation de la tension entre le désir que le temps soit réversible et que on ait vraiment cette prise sur le temps et en même temps que le temps soit plus, continu, et la raison qui conçoit que c'est impossible et que, en fait, il y a une fin et peut se demander si l'éternité, elle est vraiment désirable, si c'est qu'un éternel retour et qu'on doit que vivre le présent, bah, encore et encore. Est-ce que c'est ça l'éternité ou est-ce que c'est...
C'est que Nietzsche, il en parle vraiment frontal de l'éternel retour, alors que Baudelaire, il va vraiment le dire dans ses poèmes. Et il l'associe pas, encore une fois, directement le déjà-vu à ses poèmes ou à l'éternel retour, mais il dit lui-même que c'est vraiment quelque chose de personnel et qu'une faille dans le temps, plutôt son vécu, pas une faille réelle, mais que c'est son vécu dans le temps qui fait qu'il y a un problème entre... comme un mélange de mélancolie et de flou. Et c'est pour ça qu'il dit « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. » Et ça montre que, genre, il a une avalanche de plein de souvenirs ensemble et que ça le mène à la création de poésie, mais aussi à un vécu qui est hyper spécial du temps. Et du coup, je l'associe pas au déjà-vu, mais en même temps, si, un peu, parce que ça reste...
Si, bah c'est intéressant, parce que du coup, il y a une sorte de décharge d'événements traumatiques, et du coup, si tu parles t'as rapidement parlé de Nietzsche, le temps cyclique, tout ça, c'est ça, en fait. Même la mémoire historique, dans la globalité, c'est qu'on se touche et qu'on est touché par des décharges pas d'émotions, mais c'est tragique, en fait, c'est tragique. Je pense.
C'est ça. Mais oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et même, ça rapproche aussi au truc de... Quand il dit 1000 souvenirs, on a beaucoup de souvenirs dans une vie humaine. Mais 1000 souvenirs, d'où ils viennent? Est-ce que c'est d'une autre vie? Est-ce que c'est... Tu vois, genre, en plus, il est très dépressif, Baudelaire.
Bah, c'est ça. Est-ce que tu dis 1000 souvenirs, je suis déjà épuisé.
Est-ce qu'il est dans un psychisme où il pense à tellement de trucs qu'il est accablé par le souvenir et ça lui provoque des déjà-vus créatifs? Genre, je sais pas.
C'est comme si ça nous... met un nouveau regard sur le monde, puisque ça nous rend fragile, ça nous rend presque... Enfin, comme si, en fait, on venait de revoir le monde pendant un court instant.
Ça parle de nous sans nous dire pourquoi.
Ouais.
Ça nous ramène à notre condition humaine, genre.
Oui, c'est
mais
ça.
Mais grave, j'allais dire, le truc des 1000 souvenirs, moi, ça me fait penser, du coup, au fait qu'il y a une forme d'usure.
Les tragédies se répètent, et c'est vraiment ça, ça se rapproche du traumatisme aussi.
Vous allez écouter Déjà vu, de Olivia Rodrigo.
Spoon for two and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watching reruns of Glee, being annoying, singing in harmony. I bet she's bragging to all her friends, saying you're so unique. So when you're gonna tell her that we did that too? She thinks it's special, but it's all reused. That was our place, I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? We'll be right back.
Vous venez d'écouter Déjà Vu de Olivia Rodrigo.
Bon, du coup, là, on a beaucoup parlé du fait que c'était une expérience subjective, de décalage avec le réel, etc., etc. Mais du coup, on ne s'est pas vraiment concentré sur le côté profondément subjectif de l'expérience du déjà-vu. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que c'est une expérience qui est subjective et donc qui est un peu irréductible, enfin, qui n'est pas forcément quantifiable, analysable scientifiquement. Ouais. Enfin, ça, on l'a dit vite fait. Mais du coup, enfin, on pourrait peut-être se pencher sur l'idée, bah, par exemple, enfin, moi, ça me fait penser à Matrix. Le fait que, bah, je sais pas si vous avez vu le film Matrix, mais une fois que le film Matrix est sorti, ça a créé une sorte de panique chez la plupart des gens, beaucoup de gens qui sont allés voir ce film, parce qu'ils se sont dit, mais en fait, ça se trouve, je suis dans une simulation. Et je ne le sais pas, un peu comme le Truman Show aussi, ça se trouve. Je suis dans une télé-réalité et je suis au centre de cette télé-réalité et je ne le sais pas. Et il y a un truc de... à un moment, il va y avoir un bug qui va dévoiler le fait que...
C'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le film. Parce que dans Matrix, Neo, le personnage principal, au bout d'un moment, il voit un chat qui miaule et qui, je crois, bon, se gratte ou un truc comme ça, exactement de la même façon qu'il y a 2 minutes. Et il le dit. Il dit « j'ai un déjà-vu ». Et donc là, tout le monde se retourne en disant « Ah ben mince, ça y est, il s'est rendu compte du bug ».
C'est ça. Et on pourrait se dire « Mais est-ce que j'ai déjà vu qu'on expérimente, nous, dans la vie de tous les jours ?» C'est pas une sorte de manifestation subjective.
Que le temps n'est pas ni linéaire.
C'est grave. Et le fait, peut-être... Enfin, après, est-ce qu'on est dans une matrice ? J'en sais rien. Mais
Ça part en théorie du complot.
Non, mais pas du tout.
C'est ça, mais ça tombe dans le scepticisme, en fait, c'est vrai. Hein.
Quoi ouais.
On dit que c'est ce que tu disais sur Elon Musk aussi. Ouais, genre on voit qu'aujourd'hui, ça a des.
On n'a plus confiance dans notre temps. Et...
Ouais. C'est exactement ça, une forme de scepticisme face au réel, quoi.
Mais vraiment, mais de toute façon, pour reprendre le début de ta phrase, c'est vraiment l'idée que la manifestation du temps est bien évidemment pas linéaire, en fait. Et que la réalité contient des couches de temporalité qui se recoupent. Ce que t'as dit, Yana, si on prend l'exemple de Bergson, alors Nietzsche aussi, avec l'éternel retour, où il y a des approches mystiques qui pourraient soutenir qu'il y a un sens profond. Dans ces répétitions. Et du coup, cette répétition, qui a forcément une efficacité sociale, puisqu'on voulait parler un petit peu politique, sociologie ou autre, et je pense que ça peut être aussi intéressant de se rendre compte à quel point le sentiment du déjà-vu n'est pas que singulier, mais aussi sociétal, et que l'effet qui crée au travers de la société donne aussi une réalité politique. Par ça, je veux donner l'idée que si on prend alors Nietzsche, la répétition, même les tragédies historiques, que ça soit des génocides, des guerres, tout ce qui se passe depuis qu'on est né, on le voit chaque jour et les gens le verront jusqu'à notre perte, c'est qu'en fin de compte, ça nourrit nos discours de nos politiciens. La peur de dire qu'il ne faut pas vivre ce déjà vu, enfin, ne pas vivre une.
Pas revivre l'histoire finalement.
C'est ça en fait. C'est
ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend tout le temps alors que.
Ouais, en fait, voilà.
On voit que c'est. Et c'est revit l'histoire.
Mais on et qu'on n'apprend pas grand-chose de l'histoire, au final.
Oui.
Mais c'est ça, c'est que, en fait, du coup, profondément, c'est apprendre l'histoire pour la transformer et, du coup, pour faire sourire notre envie de créer une histoire aux yeux des gens. Et donc, du coup, c'est ce que tu disais quand tu as voulu, au tout début, définir exactement l'idée du déjà-vu. Politiquement, alors, ça va être de s'approprier l'idée de déjà-voir. Alors, si on s'approprie l'idée de déjà-voir, eh ben, alors, on s'approprie la vie en soi, la vie et la perception des gens.
Et on peut se rendre maître du réel.
C'est ça. Ouais. Bah, c'est ce que font les hommes politiques si on prend l'extrême droite aujourd'hui ou autre. C'est ça. C'est que, est-ce qu'ils réussissent vraiment ? Est-ce que profondément l'objectif c'est de réussir ou alors c'est de mettre le trouble ? Ou ça met plus profondément de se rendre compte que, on va dire, à un tel groupe d'individus, il ne faut pas vivre ça. Et les gens ne l'ont jamais vécu. Et ils ne le vivront jamais. Mais la simple peur de se colmater à une idée de ne pas vouloir vivre ça. Et alors les gens suivent ces idées.
Mais du coup aussi d'un point de vue positif, ça peut être aussi une sorte de prévention. Genre on a déjà vu ça, dans le sens où on a déjà vécu, on ne voulait pas le revivre.
L'expérience.
Par exemple les Secondes Guerres mondiales et tout
sur
ça.
Sur le plan intergénérationnel, etc.
Voilà, c'est ça.
Mais du coup, en fait, je trouve que quand même, ça nous ramène à l'idée que le déjà vu, c'est une expérience négative.
C'est ça. Parce que là, il y a quelque chose de logique avec ce que tu dis. C'est que, je suis désolé de te couper.
Vas-y.
Par exemple, la guerre, les guerres, tout ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de pratique sur l'idée qu'on ne veut pas vivre ça et qu'on est conscient de ce qu'on ne veut pas vivre. Alors que le déjà vu, on a dit qu'on ne savait pas d'où il venait, on ne sait pas comment il nous touche. Et donc, de manière globale dans la société, alors on ne sait pas que les politiciens pointent du doigt quelque chose qui fait peur, mais qu'est-ce qui fait peur, tu vois ?
C'est la menace du déjà vu. Plus que le déjà-vu en lui-même,
c'est ça.
Qui fait peur.
C'est pas le déjà-vu qui fait peur, c'est la menace d'un truc qui s'est déjà produit et qu'on donc sait mal. Mais sauf que ce qui est marrant,
ils font peur sur
marrant, c'est qu'ils font peur déjà sur du vide, mais surtout, ils font peur à des citoyens qui, entre guillemets, ils peuvent rien vu que c'est les politiques foncièrement le problème. Mmh. Genre c'est eux qui vont créer les expériences de déjà-vu vu que c'est eux qui sont la cause de toutes ces...
Mais du coup...
Et c'est eux qui nous font peur. Hein.
Ça nous rapproche aussi de l'idée que le déjà-vu ça peut être une forme de...
Vite, il faut lire.
Mais je trouve que ça nous rapproche quand même de l'idée que le déjà-vu c'est aussi une forme d'expérience traumatique. Moi ouais. ça fait vraiment penser au truc presque au stress post-traumatique. Genre le fait qu'on a tellement peur que ça revienne que par anticipation on fait en sorte que ça revienne pas. Enfin on essaie de mettre en place des choses pour que ça revienne pas, et même les gens qui n'ont pas vécu ces expériences négatives, c'est presque comme s'ils avaient une forme d'expérience traumatique intergénérationnelle. Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du traumatisme ouais. intergénérationnel, ouais, ouais. le fait que les traumatismes vécus par les générations mmh. antérieures sont un peu inscrits dans ouais. notre ADN.
Il y avait l'exemple des sorcières, enfin les femmes qui ont été brûlées à cette ouais. époque-là, que en gros il y aurait un truc de transmission de, enfin tu sais comme la peur du feu ou mmh. même des trucs comme ouais. ça qui sont des souvenirs traumatiques.
Il y a ça aussi pour les personnes esclavagisées dans les Antilles. Il y a des trucs qui se transmettent, par exemple la peur des chiens, une sorte des douleurs, je sais pas, au niveau des articulations, enfin vraiment plein de choses qui se transmettent vraiment dans le corps.
Non, mais les enfants des personnes qui ont vécu la Shoah, il y a vraiment les enfants de la deuxième génération, une grande partie se suicident.
Putain, c'est dingue. Donc, mais moi j'avais entendu parler justement d'une expérience scientifique réalisée sur des souris, et en fait ils avaient réalisé une expérience où une première génération de souris, certaines, enfin la plupart d'entre elles, ils leur envoyaient des chocs électriques quand elles allaient vers un cerisier en particulier, et du coup bah genre la première génération continuait un peu d'essayer à y aller, mais elle se faisait tellement traumatisée par les chocs qu'au finalement elles avaient arrêté d'y aller. Et en fait les bébés de ces souris là, on leur a pas donné de choc électrique ou quoi, mais d'elles-mêmes en fait elles n'allaient plus vers le cerisier parce qu'il y avait ce truc de, c'était inscrit dans leur génome ou quoi.
Quand tu dis le traumatisme ouais. qui va créer ensuite une réalité, donc, mmh. du coup le traumatisme de la première génération crée une réalité genre sur...
Prépare une forme de terrain voilà, en fait existentiel pour les générations d'après.
Du coup ça peut être vraiment la même chose d'un point de vue politique, genre plutôt de dire qu'on est dans une simulation, donc un truc un peu romantique mmh.
et qui peut
d'un
être
film genre
vrai,
Matrix et
ça
tout, c'est ça.
Met en péril l'idée de vérité, de réalité.
Exactement, donc en fait plutôt que de dire qu'on est dans une simulation, de dire que on nous crée une simulation, mais genre dans la réalité. Ouais. Genre que les politiques créent la simulation de notre... Wow. Tu vois ce que je veux dire?
Ça, c'est vrai. Ça, c'est très méta.
Genre qu'on nous...
Non, mais c'est vrai.
De la méta-éthique, quoi. On, nous, on nous crée, via nos générations et à nos souvenirs, des souvenirs traumatiques qui sont factuellement arrivés, genre d'un point de vue corporel. Mm-hmm. Et maintenant, la crainte est tellement ancrée en nous qu'on a peur de reproduire ces souvenirs traumatiques.
Mais c'est ça. Et c'est pour ça que ça passe dans le corps.
Figure-toi que ça va avec un... J'ai découvert un ouvrage en faisant une petite recherche sur le déjà-vu d'un auteur qui s'appelle... Son famille, c'est Crap. Son prénom, je ne sais pas. J'ai oublié. Mais c'est un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle Déjà-vu. Aberration of Cultural Memory. Merci pour mon accent.
Wow.
Et en gros, lui, il explique que... il y a vraiment, enfin que le déjà-vu c'est aussi une forme de symptôme socio-culturel et qu'en fait c'est aussi dû au fait que dans la société, au sein même de la société occidentale, on ressasse les mêmes images, les mêmes histoires, etc. Et qu'en fait on nous rabâche beaucoup qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas oublier le passé, etc. Et donc il y a aussi un truc de, ça crée une forme de déjà-vu, bah comme on disait en fait ça va avec tout le truc intergénérationnel dont on parlait avant, les sensations de déjà-vu, alors que il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues. Mais aujourd'hui quand on voit ce qui se passe en Palestine, tous les conflits qu'il y a actuellement, le génocide, etc., enfin on n'a pas vécu la Shoah, mais je pense qu'on a tous un peu une impression de déjà-vu, quoi. Mmh. Parce qu'il y a un truc de... On a tellement été éduqués à travers les images du génocide, de la Shoah, quoi, qu'il y a un truc de... Mais en fait, c'est exactement la même chose.
Mais même les pays en développement, genre actuel, on voit qu'ils veulent vraiment grandir et s'imposer. Ouais. Et du coup, ils prennent pour modèle l'Europe. Genre, j'ai vraiment vu un documentaire là-dessus, c'est pour ça que je dis ça, sur l'alimentation. Et genre, il y avait vraiment un monsieur à la fin qui disait le foyer du monde, avant, c'était l'Europe pour qui nourrissait le monde. Mmh. Et que maintenant, foncièrement, c'est l'Afrique et l'Asie. Et que genre, l'Europe, elle est passée. Et que du coup, bah, on va juste reproduire ce qu'a fait l'Europe, mais avec nos moyens à nous.
Et là, du coup, on en vient quand même au fait que finalement, il y a une forme de volonté de recréer un déjà-vu. Là, c'est plus un truc qui s'impose nécessairement. Enfin, je pense qu'il y a peut-être un truc de... ces personnes-là, ces sociétés-là qui essaient de recréer ce qui a déjà existé. Il y a un truc de c'est la seule manière de faire et du coup on va refaire la même chose, recréer la même expérience. Et mais en même temps, c'est en vrai c'est pas vraiment inéluctable, c'est genre un faux déjà, enfin comment dire,
c'est une question d'habitude, on est orienté vers l'efficacité et parce qu'on on a l'impression que c'est la seule manière de faire.
Bah, c'est un déjà vu politique et économique en fait, genre c'est comme si on reprenait des modèles, du coup on crée un déjà vu, mais au final factuellement les gens qui vont consommer cette reproduction vont le vivre comme un déjà vu parce que c'est pas eux qui l'ont créé, ça s'impose à eux.
Et bah oui, voilà, c'est comme ça que la réalité fonctionne.
Mais décolonisons le déjà vu.
Non mais c'est littéralement ça, c'est vraiment ce truc de toute façon c'était comme ça dans les générations d'avant donc c'est normal, on va juste se replonger dans la même réalité et c'est comme ça que ça doit se passer.
Et ça s'impose à nous, si
ça devient la norme en fait.
Oui, c'est ça.
Exactement.
Donc c'est un déjà vu imposé politiquement finalement.
Et du coup, en fait, on voit que le déjà vu peut être construit. La construction du déjà vu. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on peut s'affranchir de cette logique-là? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est possible de... Enfin, concrètement, genre socialement, c'est une question ouverte, je sais même pas si on peut y répondre.
Je pense que, enfin, si on se pose d'un point de vue... genre, du coup, je me positionner. Je pense que oui, on peut s'en affranchir. Enfin, c'est hyper compliqué. Genre, faut que ce soit collectif et tout, tu vois.
Ouais.
Mais genre, tu peux t'en affranchir si tu te rends compte que bah c'est un déjà vu qui est provoqué. Tu vois, et que c'est
vraiment
pas...
comme Néo dans la Matrice, quoi.
Ouais, c'est
ouais
ça.
Mais du coup, c'est d'un point de vue singulier alors que tu dirais ça, Lou.
Oui.
Okay. Bah, peut-être un point de vue d'abord à l'échelle individuelle, mais ensuite collective.
Oui, collectif, je trouve ça impossible.
Moi, je trouve que moi, je te le dis d'un point de vue idéal que ça doit être collectif, évidemment. Genre que si tout le monde se rend compte qu'on leur impose un déjà vu politique, économique et tout ça, bah du coup, ça permet une forme de révolution, à part si on se met dans un déni, genre tu le vois et tu veux pas le voir.
En fait, c'est la connaissance qui permet de dépasser ça de la même manière, en fait, que personnellement, quand je vis mon déjà vu, je suis là en mode je sais que c'est un déjà vu. Enfin, tu vois, j'ai un truc de.
Et tu veux retrouver la source permet, pour.
Voilà, avec la rationalité, un peu scientifique aussi, en me disant non, mais c'est un truc scientifique, c'est un bug dans mon cerveau, c'est normal, ça va passer.
Là, c'est pareil, quand on connaît qu'on peut agir.
C'est comme tous les débats avec le fascisme, en vrai. Genre là, c'est hyper deep talk, mais genre. Les gens, ils veulent pas qu'on reparle de fascisme. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Mais en même temps, si factuellement ça existe toujours et c'est toujours là, même si c'est sous une autre forme, est-ce que c'est du fascisme? Est-ce que ça en est pas? Si on met pas les mots, il y a pas de connaissance. Est-ce que du coup,
le déjà vu, j'ai l'impression qu'il est essentiel pour pas oublier.
C'est ça,
c'est
exactement.
C'est une forme de mémoire.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais du coup, alors la connaissance, elle nous libère, mais est-ce qu'elle nous enferme pas aussi? Parce que si on parle de même toute la réalité hégémonique de l'Occident, des réalités politiques, de ce qui se passe. On retrouve dans beaucoup d'ouvrages, de toute façon, même vous savez mieux que moi, mais la connaissance, elle nous oblige.
Tu voudrais dire qu'il faudrait faire table rase pour repartir de nouveau?
Bah, je pense pas, mais je pense qu'en fait, on est peut-être un peu trop condamné.
Anarchie.
Bah, non, mais c'est que profondément, les sociétés.
Dans ce truc de déjà vu éternel, quoi.
Peut-être que cette connaissance nous enferme, en fait. C'est ça, je pense.
C'est ce qui nous permet de toucher la sortie, mais on ne poussera jamais la porte.
C'est parce que c'est peut-être une connaissance.
Ça, sans y aller vraiment.
C'est une connaissance qui est elle-même orientée, finalement. Donc, du coup, est-ce que notre connaissance n'est pas elle-même un déjà vu, donc une boucle infinie?
Ah, c'est beau, c'est vrai.
Donc, comment sortir d'un déjà vu par une connaissance déjà vue?
C'est un peu bizarre. Moi, je sors un peu de mon corps quand j'ai un déjà vu. Et puis, je m'arrête, je suis en waouh, j'ai déjà vu ça. Et puis je cherche, et impossible de retrouver. C'est un peu spécial, hein, déjà vu.
Peut-être qu'il faut accepter, il faut se laisser surprendre par le déjà vu,
et
l'accepter comme une expérience singulière, ponctuelle, parce que c'est littéralement ça, sans tenter de reproduire ce qu'on a déjà vu.
Ouais. Juste tu te laisses accueillir par le déjà vu, genre en mode...
Laisse-toi accueillir par le déjà vu.
Mais c'est ça, finalement... Amen. Laisse-toi accueillir par le déjà vu.
Mais il faut.
Mais comme la réminiscence, genre tu te laisses accueillir par la réminiscience.
Peut-être qu'il faut accepter de lâcher prise et.
Mais je pense qu'il faut accepter
d'avoir le contrôle
de lâcher prise.
Dessus.
C'est ça.
Mais il y a une forme de lâcher prise dans le déjà vu de toute façon.
Ouais.
C'est, on peut pas contrôler le déjà vu de toute façon. Il arrive et il part quand il veut. Donc
mais comme on le surpense trop avec la connaissance, bah en fait c'est comme si on le voulait. Enfin, on
l'intellectualise trop.
En fait, c'est ça. Donc on le tue.
Ah.
En le laissant vivre.
Réminiscence ou déjà vu?
Déjà
réminiscence.
Plus fun.
Ouais.
Okay, provoquer la réminiscence et tout. C'est cool.
Revis ta première cuite ou ta première peine d'amour?
Première cuite.
Ah, première peine d'amour.
Première cuite.
Première peine d'amour, c'est tellement violent.
Bah ouais, mais tu vis.
Ah ouais.
Tu vis, hein.
Tu vis, hein.
La chanson déjà vue de Olivia Rodrigo ou la chanson déjà vue de Beyoncé?
Olivia Rodrigo, Olivia Rodrigo,
Olivia Rodrigo. Madeleine ou Financier?
Madeleine.
Vous venez d'écouter Radio Pium sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Au micro, c'était Manon Vincent, Lancelot Banon, Lou Fontana, Mariam Barem et moi-même, Anna Le Guar-Mesguez. Retrouvez-nous un dimanche sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de streaming. Vous pouvez nous envoyer un mail à opium.radiopium@gmail.com ou même nous envoyer un message sur Instagram, opium-philosophie. Et vous pouvez aussi essayer de nous retrouver sur TikTok. À bientôt et merci de nous avoir écoutés.